Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui nous donnes la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, car tu t'es fait proche de nous. Malgré nos tâtonnements et notre endurcissement, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence, que ta parole agisse en nous, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir développé en nous la vie du Christ, la justice, l'amour, la paix, la joie de ton royaume. Oui, Seigneur, éclaire-nous par ton esprit dans cette lecture de l'Évangile. Amen.
Donc, lecture de l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Donc, Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. »
Le verbe « faire » est utilisé 4 fois, au verset 25, au verset 28 et au verset 37, 2 fois. Il est utilisé 2 fois par le scribe et 2 fois par Jésus. Et ce verbe « faire » est utilisé en relation avec la vie éternelle. En effet, la question du scribe, traduite littéralement, verset 25, « Quoi, ayant fait, vie éternelle, j'hériterai ?» On s'attendrait à ce que Jésus lui dise, comme il a dit bien d'autres fois, qu'il suffit de venir à lui ou croire en lui pour avoir la vie éternelle. Je peux citer 2 versets remarquables qui disent cela dans Jean 6, 47, « Celui qui croit à la vie éternelle ». Dans Jean 5, 39 à 40, « Sondez les Écritures,
car vous vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce ne sont là que deux versets parmi beaucoup d'autres qui associent clairement croire et avoir la vie éternelle. Mais ici, ce n'est pas comme ça que Jésus répond. Il maintient le verbe faire pour parler de la vie éternelle. Donc la vie éternelle, on peut bien la décrire aussi en termes de faire. Et c'est ça qu'il faut étudier dans ce passage. D'abord, ce scribe comment connaît-il la vie éternelle? Un scribe, c'est quelqu'un qui recopie à la main la Bible. C'est son métier. J'en ai vu un une fois, ici à Clermont-Ferrand. Il lui faut une année pour écrire la Bible à la main, la Torah. Alors dans la Torah, il n'en est pas question réellement de la vie éternelle. Explicitement, on ne la trouve pas dedans. Il faut donc les psaumes et puis les prophètes pour trouver dans l'Ancien Testament quelques passages où elle est mentionnée. Et notamment les passages qui nous parlent du rôle des Lévites, du sacerdoce que Dieu a donné à la tribu de Lévi. Par exemple, le psaume 133, que vous connaissez tous, puisque vous avez tous une fois chanté dans votre vie, « Hine matov manarim shevet ahim gam yahab » Ça, c'est le début du psaume 133, qui dit combien il est bon pour une communauté d'être réunis autour de la prêtrise de Aaron. Et pourquoi c'est bon? La raison est donnée au verset 3 de ce psaume 133. Parce que c'est là que le Seigneur a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, là on trouve cette expression, la vie pour l'éternité, à la fin du psaume 133. Et les Juifs ont bien compris que c'était là le rôle des Lévites, de manifester cette vie qui est en Dieu, qui est donc éternelle, qu'il n'y a pas de mort dedans, la vie du Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il est interdit aux Lévites encore aujourd'hui d'entrer dans un cimetière. Alors ça peut expliquer pourquoi dans cette histoire particulièrement Jésus fait intervenir un Lévite et un sacrificateur. Il se détourne de l'homme agressé. Jésus dit qu'il était à moitié mort. Si le Lévite et le sacrificateur l'avaient eu dans leurs bras au moment où il expirait, ben, il y aurait eu tout un temps de purification nécessaire pour eux d'après la loi. Jésus dit que cet homme venait de Jérusalem et descendait à Jéricho. C'est la route des pèlerinages que Jésus lui-même a suivie. Et en étudiant à Histoire jeudi ce texte, Gérard a dit, mais dans le texte c'est marqué un homme et non pas un juif. Nous pouvons nous douter qu'il s'agit d'un juif. Il a fait ce pèlerinage au temple. Mais le texte dit un homme, pour que tout le monde puisse s'identifier avec cet homme. Donc, il est laissé à demi-mort par ses agresseurs. Et les premiers qui passent sont un Lévite et un sacrificateur, qui venaient probablement de finir leur service dans le temple, où ce pèlerin avait été accueilli, où il avait aussi reçu la bénédiction avant son départ. Vous connaissez tous cette bénédiction ici, parce que tout le monde dans le monde presque connaît ce chant. Evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem. Eh bien, ce chant, c'est ce que disent les sacrificateurs aux pèlerins avant qu'ils repartent du temple. Une bénédiction qui inclut donc la paix. Cela peut donc arriver que, immédiatement après avoir vécu dans la présence de Dieu, on est victime d'une agression, victime d'une injustice ou d'un malheur qui nous tombe dessus comme ça, à l'improviste. Et nous avons, depuis quelques années, des témoignages assez fréquents maintenant de chrétiens. À peine sortis du temple, une voiture explose devant le temple et ils sont tous massacrés. Ou bien carrément dans l'église même, au moment où ils sont en train de prier. Alors on peut vraiment se demander, mais que fait Dieu ? Mais je veux aussi évoquer toutes les blessures qu'on peut recevoir dans l'église. Par le comportement d'un frère, d'une sœur ou par le pasteur. Ça aussi, si on est attentif, autour de nous, il y a pas mal de gens qu'on ne voit plus dans les églises. Parce qu'ils y ont été traumatisés. Le mot trauma est employé dans ce texte pour parler des blessures de cet homme. Mais nous pouvons aussi nous faire du mal à nous-mêmes par l'usage que nous faisons de la loi de Dieu, par l'usage que nous faisons de la Bible. C'est pourquoi Jésus commence par demander deux choses à ce scribe qui connaît la loi par cœur. Au verset 26, il pose deux questions. Qu'est-il écrit dans la loi ? Deuxième question, comment lis-tu ? Ce n'est pas apparu dans la traduction qui a été utilisée. Mais la deuxième question en grec, c'est bien, comment lis-tu ? Nous pouvons effectivement lire la Bible en nous blessant nous-mêmes et en blessant les autres. Or, il faut toujours se souvenir que la Bible ne va peut-être pas dans notre sens, parfois elle ne va pas du tout dans le sens que nous désirons, mais elle n'est jamais contre nous. Elle n'est jamais contre l'être humain. Parce qu'en envoyant sa parole, Dieu veut toujours la vie, toujours. Il veut toujours la vie de l'être humain, et non pas sa condamnation. Il le dit explicitement dans beaucoup d'endroits. Est-ce que moi je souhaite la mort du pécheur, dit Dieu dans Jérémie ? Moi, croyez que je souhaite la mort du pécheur ? Il n'est pas comme nous, Dieu. C'est ce qu'il dit explicitement dans la Bible. Mais et même quand la Bible nous parle de la colère de Dieu, il faut comprendre ça comme étant salutaire pour nous. La colère de Jésus dans le temple de Jérusalem, c'est une colère vraiment bonne, salutaire pour nous. Parce qu'il veut que dans ce temple, qu'il appelle la maison de son Père, tout être humain puisse venir prier. Que la voie de la prière reste ouverte à tout être humain. Rien de pire que de faire croire à un être humain que la prière, pour lui, ça ne sert à rien. Jésus dit, la maison de mon Père doit être un lieu de prière pour toutes les nations. Alors il élimine le commerce. Il ne faut pas que ça soit envahi par le commerce, sinon il n'y a plus de prière dans le commerce. Oui, comment lisons-nous la Bible ? Vous voyez, cette question est vraiment très importante et il faut très régulièrement se reposer cette question. D'après la Bible, les Lévites et les sacrificateurs devaient aussi expliquer au peuple la loi de Dieu et donc agir dans le sens où va cette loi, c'est-à-dire agir dans le sens de la vie éternelle. Cette semaine, c'était la lecture de la Torah, le dernier morceau de la Torah, puisqu'on recommence la lecture à Simchat Torah, c'était vendredi dernier. Les Juifs ont lu, dans Deutéronome 33, au verset 11, la bénédiction de Moïse sur Lévi. Avant de mourir, Moïse a prié pour Lévi dans ces termes. « Seigneur, bénis sa force et que l'œuvre de ses mains te te soit agréable. Que l'œuvre des mains des Lévites soit agréable à Dieu. C'était la prière de Moïse. Oui, Dieu veut que le Lévite et le sacrificateur fassent œuvre de vie éternelle. Et c'est précisément ce que dans l'histoire que Jésus raconte, ils n'ont pas fait. Ni le Lévite, ni le sacrificateur n'ont fait œuvre de vie éternelle. Ne sommes-nous pas souvent comme ça, nous aussi? Commencez par moi, pasteur. Oh, de belles paroles, de belles bénédictions sortent de notre bouche, mais quand les gens regardent mes actes ou mon comportement, est-ce qu'ils voient ce que j'ai annoncé avec ma bouche? J'entends parfois des critiques contre l'apôtre Paul. Il serait par exemple misogyne ou que sais-je. Mais enfin, il y a dans Philippiens 4, verset 9, une affirmation de l'apôtre Paul que moi je ne peux pas faire. Mais lui, il pouvait la faire. Voilà ce qu'il dit dans Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi. Faites ces choses. Faites-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ouah. Ben lui, il y avait cohérence entre ses paroles, son enseignement et ce qu'il faisait. C'était cohérent. Et lui pouvait dire, ce que vous avez vu en moi, faites-le. Faites-le. Le Dieu de paix sera alors avec vous. Oui, voilà quelqu'un qui a accompli ce qui est l'œuvre d'un lévite, d'un sacrificateur selon le cœur de Dieu, une vie éternelle en acte. Jésus raconte à ce scribe une histoire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Nathan qui raconte aussi une histoire à David. Parce qu'en racontant une histoire, à la fin de l'histoire, c'est le scribe qui, de sa propre bouche, va exprimer la vérité. De la bouche du scribe va sortir cette phrase, « Le prochain, ben, c'est celui qui a fait la miséricorde envers lui. » C'est au verset 37, c'est là qu'il y a la troisième fois le verbe « faire ». Il a fait la miséricorde. Il a fait la miséricorde envers lui. Et ce prochain, il a dû réfléchir tout d'un coup, le scribe, de ce qu'il venait lui-même de dire avec sa bouche. Attendez, mais qui j'ai appelé mon prochain là? Celui qui a fait la miséricorde. Mais c'est un samaritain. Oh là là, mais dans quoi il m'a embrigadé Jésus là? Il vient d'appeler le samaritain un prochain. Ouh, aïe, 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 aïe. Oui, parce que Jésus s'est débrouillé pour qu'il arrive à dire ça, mais au sujet du samaritain. Ils étaient à couteau tiré, les juifs, les samaritains. Et Jésus dit même ce samaritain a été saisi aux tripes à la vue de l'homme blessé. Compassion jusque dans le ventre, verset 33. Les choses qui sont importantes, souvent ça se passe dans le ventre et pas dans la tête. Et là, donc, à cause de cette miséricorde, changé complètement son programme, son timing de voyage. Il a pris du temps. Il a dépensé de l'argent, beaucoup d'argent, 2 deniers. On pense maintenant que ça équivaut à 2 mois de pension complète dans un hôtel. Je ne sais pas calculer combien ça ferait. Pension complète dans un hôtel pour 2 mois, c'est quand même beaucoup d'argent. Les pères de l'Église ont vu dans ce Samaritain une figure de Jésus. Dans Jean 8, 48, Jésus est traité, lui aussi, de Samaritain. C'est l'insulte suprême. Jean 8, 48. Jésus est traité de Samaritain. Pourquoi ? Parce qu'il vient de dire, Jean 8, 24, « Je suis !» Ça, c'est la façon dont Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis. Je suis. Je suis qui je serai. » Et puis, Jean 8, 46, il a aussi dit, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Donc Jésus, publiquement, dit qu'il est sans péché. Évidemment, de telles affirmations, imaginez un homme devant vous qui vous dit ça. Les Juifs l'ont traité de Samaritain, de démoniaque, quelqu'un qui a perdu la tête, en tout cas, qui leur est étranger. Il est devenu très loin pour eux qui ont l'habitude de la loi et que personne ne peut mettre dans sa bouche des paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Oui, Jésus leur paraît très loin par sa façon d'interpréter la loi. Et pourtant, il n'a rien changé à la loi. Jésus, c'est ce Dieu que nous croyons lointain, sans péché, qui s'approche de nous pécheurs. À la croix. Sa mort permet à l'huile et au vin de pénétrer dans nos traumatismes. C'est le sens de la Sainte Cène. Sa mort permet à l'huile et au vin de pénétrer dans les blessures que nous ont infligées les malheurs de la vie, ou dans les blessures que nous nous sommes infligées nous-mêmes, ou que les autres nous ont infligés. Oui, l'huile, ça calme la souffrance, ça adoucit les blessures. C'est le Saint-Esprit. Il fait tellement de bien quand on a été blessé. Et le vin, à l'époque, c'était un désinfectant. Le vin, c'est le sang de Jésus. Qui, on le sait tous, nous purifie de toute souillure, de tout péché. Jésus, c'est le lointain qui est devenu notre prochain. Mais Jésus, c'est aussi cet homme qui est laissé à moitié mort par les brigands. Il s'est mis en scène dans les deux personnages. Dans l'homme blessé et dans le Samaritain. Pourquoi je dis cela? À cause de Jean 19, verset 5. Les soldats romains, avant de mettre Jésus sur la croix, ont eu l'ordre de Pilate de le flageller. Et après une flagellation, on est déjà à moitié mort. C'est cette expression que Jésus utilise pour parler de l'homme blessé. À moitié mort, il a été là, au bord du chemin. Effectivement, Pilate, après cette flagellation, fait sortir Jésus devant la foule et il dit à la foule, « Voici l'homme. » Et tous les pères de l'Église, tous les exégètes disent, cette phrase n'est pas anodine. « Voici l'homme, il est à moitié mort. » Oui, Jésus, c'est cet homme blessé, à moitié mort, que Pilate nous met devant les yeux. Et qui sera le Samaritain qui va s'approcher de lui? Il y en a eu. Il y en a eu. Un autre qui était crucifié avec lui a dit, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Il s'est approché de lui. Non, pas physiquement, mais en parole, il s'est approché de lui. Sa mère, alors elle n'a pas eu de parole, mais la mère de Jésus était là, jusqu'au bout. Et elle s'est approchée de lui dans son cœur. Son cœur a été transpercé. Et immédiatement, elle a été transformée en une nouvelle maternité. Une maternité glorieuse. Parce que nous avons tous une mère. Jérusalem céleste est appelée notre mère. Dans Galates 4. Oui, désormais, la vie éternelle est au milieu de nous. Nous pouvons tous faire quelque chose. Il faut maintenir le verbe faire concernant la vie éternelle, parce que le texte la maintient. D'ailleurs, vous connaissez tous ce que Jésus a enseigné concernant le jugement dernier dans Matthieu 25, 31 à 46. À ce jugement dernier, on verra défiler toute une série de gens blessés, nus, malades, en détresse, prisonniers. Jésus dira le jugement dernier, c'est-à-dire l'entrée dans la vie éternelle suivant le comportement, ce qui a été fait ou non ou pas fait, par rapport aux personnes blessées. Il y aura beaucoup de surprises. Et puis nous connaissons aussi l'apôtre qui a eu le plus, donc nous avons le plus décrit dans le Nouveau Testament, c'est Paul, l'apôtre Paul. Et comment il a eu sa vocation? Comment il a été retourné complètement? C'est la gloire de Jésus qui l'a retourné? Oui, mais la gloire associée à la souffrance des chrétiens. Parce que Jésus lui dit dans Acte 9, verset 5, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Jésus était vraiment dans ces chrétiens que Shaoul persécutait. Il est toujours dans ce monde. On peut tous s'approcher de lui. Et cette parabole du Samaritain qui s'approche de l'homme blessé se trouve que dans l'évangile de Luc. Pourquoi? Peut-être Luc, qui était un compagnon de mission de l'apôtre Paul, il a été lui témoin de comment Paul s'approchait des gens qui sont les plus éloignés de lui, qui paraissent à l'opposé de ses propres convictions de foi. Paul s'approchait des païens, alors qu'il était un juif orthodoxe. Il a été élevé au pied de Gamaliel. C'est pas rien, vous savez, d'avoir eu une formation avec un grand rabbin. Et ensuite d'aller vers les non-juifs, en abandonnant tout ce qu'on avait enseigné, ce qu'il fallait faire, parce qu'il a renoncé à plein de coutumes juives, pour s'approcher de ceux qui sont le plus loin de Dieu. Et Paul dit dans Éphésiens, vous étiez sans Dieu, sans espérance dans le monde, et je vous ai annoncé le Christ, je vous l'ai rendu proche. Et Luc est témoin de ce que, en Paul, il y a eu un Samaritain qui s'est approché de l'homme, des hommes blessés qui sont loin de Dieu. Alors les chrétiens, c'est pas seulement... La conclusion qu'il faut tirer de ce texte, c'est pas seulement les gens qui doivent s'approcher des hommes blessés, parce que vous avez bien compris que le chrétien, ça peut aussi être l'homme dont les autres doivent s'approcher. Nous sommes dans ce monde et pouvons être blessés par ceux qui ne veulent rien de Christ. Mais nous devons apporter l'huile et le vin dans ce monde, non pas par notre puissance, mais par notre présence. J'ai fait un séjour au monastère de Bose, formation pastorale, la semaine dernière, et un moine m'a dit cette phrase, « Le monde n'a pas besoin de notre puissance, mais de notre présence. » Si on lit le contexte de notre passage, si vous allez au chapitre 9 de Luc, au verset 53, vous verrez que juste avant que Jésus enseigne comme cela, il a été chassé d'un village de Samaritains. Il était fatigué, il voulait aller dormir dans ce village, et on les a mis dehors. Jacques et Jean étaient outrés. Ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'on doit prier que le feu descende du ciel et brûle ces gens-là? Ils avaient beaucoup de foi, hein. Punaise. Hein. Et Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé? Alors ça dépend des manuscrits. Dans Luc 9, 55, il y a des manuscrits qui disent, où Jésus ajoute, le Fils de l'homme est venu, non pas pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Donc, peu de temps après avoir été mis à la porte d'un village de Samaritains, Jésus donne un Samaritain en exemple. Là, nous avons comme une sorte de ouverture devant nos yeux dans le texte du cœur de Jésus. Il ne garde aucune rancune. Dans ce cœur de Jésus, nous voyons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous voyons que c'est une seule et même chose. En Jésus, Dieu est aimé d'un amour humain. Et l'être humain est aimé d'un amour divin. Amen.